Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de Au fil des bobines, l'émission préparée par Cinéphile. Cinéphile, c'est l'association qui promeut un cinéma pas ordinaire, de qualité, étonnant et ouvert sur le monde. Aujourd'hui, à la technique, nous avons le plaisir d'avoir Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonjour Cinéphile.
Et nos deux merveilleuses critiques qui vous éclairent de leurs avis toujours aussi pleins d'expertise. Bonjour Martine.
Bonjour.
Et bonjour Valérie.
Bonjour.
Et Godefroy aussi est avec vous. Alors, si d'ailleurs vous êtes intéressé par ce qui se passe à Cinéphile, c'est-à-dire prévisionner des films, donner son avis, pas obligatoirement en radio, mais en tout cas dans un collectif qui est toujours intéressé à partager des idées autour des films, venez nous rejoindre. Cinéphile, c'est une association qui est ouverte à toutes et à tous. Et nous vous rappelons aussi que vous êtes tous invités, adhérents, sympathisants ou simples curieux, à notre Assemblée Générale qui aura donc lieu le jeudi 9 avril, c'est donc tout proche, à l'amphithéâtre Samuel Paty, à 18h30, vous prendrez ainsi connaissance des actions de l'association, de nos projets, et puis aussi avec diffusion, on pourra regarder ensemble un court-métrage, et puis après un verre de l'amitié. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre physiquement ou dans notre association, c'est toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la programmation du mois d'avril, en commençant du coup par un film qui va être en cours au moment où vous entendrez l'émission, puisqu'il débute le 30 mars jusqu'au 7 avril, c'est Amour Apocalypse, un film d'Anne Aymon. Et c'est Valérie qui avait eu un certain coup de cœur pour ce film. Valérie, que pourrais-tu nous en dire ?
Alors, Amour Apocalypse, c'est vrai que déjà le titre interpelle. Voilà, moi c'est un film que j'ai eu l'occasion de découvrir lors de la quinzaine des cinéastes à Cannes en 2025. C'est un bon cru cette année, la quinzaine des cinéastes. Et j'étais vraiment charmée par ce film, qui est une comédie. Alors une fois n'est pas coutume, hein, cinéphile, on n'a pas trop l'occasion de passer des comédies. Donc en voilà une, donc je vous engage vraiment à venir la voir. Donc c'est Anne Aymon, c'est une réalisatrice québécoise. On n'a pas non plus l'occasion de passer tellement de films du Québec. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un sous-titrage.
Ah oui.
Donc déjà, ça
nous aide à comprendre,
voilà,
nos cousins.
Et puis c'est toujours chantant et agréable d'entendre ça. Alors le synopsis, rapidement, donc, c'est l'histoire d'Adam, un quarantenaire célibataire qui a un chenil. Et lui, il est vraiment un petit peu dans la lune. Voilà. On dit qu'il est assez tendre et sensible. Et alors ce qui le préoccupe, lui, c'est l'état du monde qui s'effondre. Et c'est un écho anxieux, en fait. Il sombre un petit peu dans une dépression. Il va voir une psy, mais ça ne suffit pas. Et donc, il investit dans une lampe solaire thérapeutique. Et à partir de là, lorsque cette lampe tombe en panne, il appelle la hotline. Et au bout de la hotline, il y a la voix rayonnante d'une certaine Tina. Et là, ça va être le début de cet amour apocalypse. Donc, c'est une comédie romantique où les personnages sont vraiment atypiques, touchants et drôles. Alors les acteurs, c'est Piper Perabo qui a fait pas mal de télévision et qu'on a pu voir dernièrement dans la série Yellowstone en streaming sur Netflix, il me semble. Et puis Adam, c'est Patrick Yvon. Alors les situations sont complètement décalées, parfois burlesques, et elles s'enchaînent avec beaucoup de rythme. Donc voilà, on rit beaucoup. Il y a aussi des questions profondes qui sont abordées, puisqu'on parle du changement climatique, on parle aussi de la santé mentale, finalement, parce que ben, cet Adam, là, on dit qu'il est tendre et sensible, mais il a des troubles quand même qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on appelle les TDAH. Là. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis, ben, là, on a aussi la marchandisation du bien-être. Donc voilà, il y a des thèmes profonds, mais traités de manière très... très légère et humoristique. Donc, dans ce monde où on vit quand même des événements qui ne sont pas toujours très joyeux en ce moment, je vous engage vraiment à aller voir ce film qui j'espère, vous fera bien rire et que vous apprécierez. Juste, il a été présenté à la quinzaine des cinéastes, donc, et il a obtenu le grand prix du Festival de romantique de Cabourg en 2025.
Et c'est vrai qu'à Cinéphile, on a parfois l'impression qu'on projette beaucoup de films assez parfois un peu difficile, enfin avec un regard assez dur sur le monde. Et ça fait du bien d'avoir aussi de temps en temps quelque chose qui, sous une forme cinématographique intéressante, amène un peu de légèreté. Le cinéma, il y a aussi de la légèreté, il y a aussi de la poésie dans le cinéma, et c'est ça qui en fait tout le charme.
Juste un mot sur la réalisatrice, donc Anne Aymon. Alors c'est une réalisatrice québécoise. Elle a commencé, comme beaucoup, par des courts-métrages entre 2002 et 2011. Et puis elle a commencé à faire des longs-métrages à partir de 2015. Et notamment un qui s'intitule Nelly, qui est inspiré de la biographie de Nelly Arcan. Voilà. Et puis la BO du film est aussi particulièrement intéressante parce que la musique est teintée d'éléments électroniques et de textures sonores particulières qui reflètent et qui sont un peu le miroir des névroses du protagoniste. Donc c'est intéressant et vous entendrez au cours de l'émission un extrait de la BO.
Voilà, on fera une petite pause musicale en milieu. Merci beaucoup Valérie. On va changer un petit peu de genre, d'espace et de représentation pour parler d'une soirée exceptionnelle, début de soirée qui aura lieu le jeudi 2 avril à 18h30, une ciné-rencontre avec une projection unique et la projection de La peintre et la modèle, un film d'Isabelle Vrina, avec Isabelle Vrina, et qui sera là aussi. Ce film, Martine, tu l'as vu, Isabelle Vrina, c'est quelqu'un que l'on connaît. Qu'est-ce que tu pourrais nous en conter ?
Isabelle Vrina, c'est une peintre, effectivement, et conférencière, puisqu'elle donne des cours, on va dire, tous les mois, sur l'art et sur les peintres. Cette année, c'est sur les femmes peintres. Et là, ce film, elle l'a réalisé. Ça se passe dans son atelier. La caméra est plantée entre la modèle, une très jeune femme qui pose nue pour elle, et elle, peintre. On voit les traits du peintre sur le papier qui gratte, qui essaie de la représenter. Ce sera sur trois séances de peinture. Et puis, elle utilise des miroirs, des masques, etc. Et finalement, la parole va prendre le dessus. C'est-à-dire que Isabelle Vrina va raconter un peu comment elle a eu l'idée très jeune de faire un film avec un scénario sur la peinture, etc. Et puis, voilà, le dialogue s'installe jusqu'à un désaccord, en fait. Et le film s'arrête là, sur le fait que la Juliette, la jeune modèle, pose des questions et s'en va sans les réponses. C'est un film autant sur la peinture en train de se faire, la relation entre le modèle et la peintre, un discours qui est le leur et qui nous apprend aussi des choses sur la relation entre peintre et modèle.
Et après ce film, il y aura un temps d'échange rapide, voilà. Mais qui est prévu avec Isabelle Vrina. Si vous avez justement des questions après la projection à lui poser, elle sera là pour répondre à vos interrogations.
Et on continue. Unique, hein. C'est une séance unique.
Séance unique.
Il ne faut pas la rater.
Séance unique. Ouais. 18h30, le jeudi 2 avril. Alors, on continue avec Martine dans un tout autre registre. Avec un film de Mariam Touzani. Mariam Touzani, vous vous rappelez, c'est celle qui avait fait un film qui nous avait beaucoup plu et qui avait beaucoup plu. C'était Le Bleu du caftan. Du caftan, pardon. Et là, elle arrive avec son nouveau film, Rue Malaga. C'est autre chose. Ça ne se passe plus au Maroc, mais du coup en Espagne.
Ça se passe au Maroc.
Mais j'ai pas vraiment, c'est moi qui n'est pas bien. Je ne l'ai pas vu, moi. Je ne l'ai pas vu.
Si, ça se passe au Maroc, ça se passe à Tanger. C'est là où la réalisatrice Mariam Touzani est née. Et ce film est un hommage à sa grand-mère qui est venue au moment du protectorat espagnol dans les années 30 pour fuir le régime de Franco. Donc c'est un film quasi autobiographique, on va dire, mais disons que cette Mariam Touzani est marocaine, donc née à Tanger, dédie ce film à sa grand-mère et elle avait déjà fait Le Bleu du caftan, effectivement, au Maroc, la question de l'homosexualité au Maroc, ce qui n'était pas facile. Et là, on retrouve, en fait, grâce à son actrice, Carmen Mora, qui a fait 7 longs-métrages avec Pedro Almodovar. Et là, elle a, entre, mettons, 80 ans, elle est vieillissante, mais tout aussi rayonnante. Et grâce à cette actrice, qui a une expressivité extraordinaire, elle peut évoquer le chagrin, tout de suite après l'enthousiasme, elle est très espiègle, etc. Et elle est, on va dire, à l'apogée de son art, puisque la caméra ne la lâche pas d'une seconde, en fait. Donc c'est un film assez classique, les événements se déroulent de façon chronologique, parfois ils sont attendus, le film se déploie sur presque 2 heures. Et là où on retrouve son génie, qui était très apprécié dans Le Bleu du Caftan, c'est que en fait, c'est une, grâce à sa chef opératrice, la même que Le Bleu du Caftan, on retrouve une sensorialité et une sensualité qui est assez rare, on va dire. Parce que on sent bien que Mariam Touzani, elle a adoré cette ville dans laquelle elle est née. Et en fait, il y a presque une magie, parce que quand on est au marché, on a l'impression d'halluciner les odeurs, d'halluciner les couleurs, de sentir la mer. Il y a quelque chose comme ça dans ce film et chez cette femme qui est assez rare, on va dire. Donc rien que pour ça, c'est déjà un beau voyage, on va dire. Au niveau du scénario, il est assez simple, hein, il n'y a pas... je ne vais pas dévoiler non plus, mais en fait, si on parle des thèmes, plusieurs thèmes abordés, donc évidemment la ville de Tanger, qui est filmée de façon, même jusqu'au bord de la mer, etc., qui est filmée dans les rues, principalement la rue Malaga, qui n'est pas la rue Malaga, qui est là, mais bon, c'est un film. Et donc ça traite déjà d'une relation mère-fille assez tendue, puisque la fille veut récupérer l'appartement que son père mort lui a légué. Et donc, Carmen, enfin Maria dans le film, va devoir quitter sa maison. Là où on aborde le deuxième thème, c'est que en fait, les attendus d'une personne, surtout une femme vieillissante, c'est d'être une bonne grand-mère. Et puis, si ça ne marche pas, d'aller dans une institution. Donc, c'est un peu les choix qui sont des non-choix, puisqu'elle ne les prendra pas, qui va lui être proposé, quoi. Donc, cette relation mère-fille est très, très tendue. Un autre thème aussi, c'est qu'elle va devoir quitter cet appartement. Et les objets, les meubles vont devoir se vider. Elle traite les objets comme des signifiants, des objets mémoire et même des objets amour, puisque à travers ces objets, il y a une relation qui va se tisser avec un antiquaire qui, lui, a l'amour des objets pour les réparer, pour les faire vivre. Malgré leur âge. Et puis il y a aussi le thème de la communauté, c'est-à-dire que dans cette rue à Tanger, on parle arabe, marocain, espagnol, il y a une multiculture, on va dire, et cette communauté va l'aider à poursuivre son rêve de liberté. Et puis il y a aussi l'idée de l'âge avancé d'une femme. Le film, c'est plutôt sur un destin individuel, c'est-à-dire un choix. Croquer la vie plutôt que se laisser croquer par elle et s'extraire des clichés attendus. Voilà. Ce thème-là de l'âge avancé, il avait déjà dernièrement été... Je saute sur un autre film qui était aussi très bien. Les voyages de Teresa, un film brésilien, où on retrouve aussi ce thème où, au Brésil, les vieux sont envoyés dans des camps pour s'en débarrasser. C'est ce thème précis qui est un peu développé, mais sans pathos, on va dire, puisqu'elle choisit de plutôt continuer à vivre dans les choix qu'elle a, avec détermination, choisi.
On avait passé aussi un court-métrage qui s'appelait « La lumière du phare », dont c'était le thème également.
C'était le thème.
C'est vrai.
Et où la grand-mère, entre guillemets, prenait son destin en charge.
Oui, voilà.
Et elle avait fait le choix contre son... Alors là, ce n'était pas sa fille, mais c'était son fils. Et enfin voilà, ça me fait penser quand tu décris.
Ouais, c'est un thème qui est un peu exploité en ce moment. Voilà. Ouais.
D'actualité.
Et dans le bleu du caftan, moi je me rappelle de couleurs, d'une luminosité d'ombre assez extraordinaire, mais c'était relativement à l'intérieur beaucoup. Ouais. Là, est-ce qu'on a aussi ces impressions de couleurs comme elle arrivait à nous le donner précédent film?
Elle a un peu imposé le rouge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge à travers les fruits du marché. Dans les rues, dans les robes de Carmen Mora, et sans doute chez sa grand-mère. Oui, dans le bleu du caftan, il y avait cette sensorialité du tissu, du toucher. Et là, il y a plus les odeurs,
plus
les
ouvert
sons,
sur
les
la
sons,
ville.
Les sons aussi.
Plus extérieurs.
Ouais, les autres sens, en fait. Et puis, une grande... sensualité, puisque c'est pas évident non plus de filmer un corps vieux.
Mais le bleu du caftan, il y avait aussi la manière de filmer un métier, puisque le protagoniste était en train de coudre justement ce fameux caftan.
Ouais.
Et il avait aussi réalisé Adam, il me semble.
Oui, voilà. Adam.
Qu'on avait passé aussi, qu'on avait beaucoup apprécié.
En 2019, en fait, tous ces films ont été candidatés aux Oscars pour représenter le Maroc. Et Rue Malaga, encore. Et Rue Malaga, il a eu un prix du public à Venise, au dernier festival de Venise. Et elle a fait partie du jury de la compétition à Cannes l'année dernière. Donc c'est une cinéaste qui est assez reconnue. Bien qu'il y en ait beaucoup au Maroc, j'ai regardé tout à l'heure, il y a énormément, mais...
Mais assez peu de films marocains qui sont peut-être en diffusion française.
Oui, c'est ça.
Il y a un festival qui prend aussi beaucoup d'ampleur. C'est le Festival du film de Marrakech. Et le Bleu du Caftan avait obtenu... Alors, je ne sais plus si c'est pas une palme. Je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est la récompense suprême en 2022.
Et comme promis, on va faire une petite pause musicale en vous proposant maintenant un extrait d'Amour Apocalypse, le film dont on a parlé précédemment.
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, solitaire, c'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser.
Justement un documentaire sur un métier s'appelait Costa Brava Lebanon et qui avait été réalisé par l'actrice principale du film Un monde fragile et merveilleux, qui s'appelle Mounia Akl. Donc en fait, il a proposé... Mounia Akl, c'est la première fois qu'elle joue en fait dans ce film. À la base, elle est scénariste et réalisatrice. Alors ce film, c'est une plongée dans la folie du quotidien des Libanais. Et Dieu sait si l'actualité d'aujourd'hui... Enfin, comme toujours, hein, on a toujours envie de dire cette phrase. Malheureusement, toujours d'actualité, et encore plus aujourd'hui. Donc, c'est une histoire d'amour qui s'étend sur 3 décennies, entre donc Nino et Yasmina, qui sont attirés l'un vers l'autre dès l'enfance. Et donc, on les suit. Alors, la première image du film, c'est leur naissance. Donc, ils naissent dans le même hôpital, à quelques mètres l'un de l'autre, sous les bombes. Bon, tout se passe bien, puisque les accouchements respectifs se passent bien. Donc et voilà, ils commencent déjà par naître le même jour, quasiment à la même heure. Ils vont dans la même école. Et donc le film se passe sur une trentaine d'années. Et le réalisateur use de flashbacks donc, qui viennent à la fois éclairer leur enfance et puis leur nouvelle rencontre à l'âge adulte. Donc voilà, c'est intéressant de... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, ces flashbacks. Ça donnait un petit peu du rythme au film et à l'intrigue, même si, par ailleurs, c'est une histoire d'amour, donc il n'y a pas forcément une grande, grande intrigue. Après, c'est la manière de filmer aussi. Il y a un charme fou. Les acteurs sont vraiment très, très intéressants et flamboyants. Ils sont vraiment complètement différents. Et donc, il y a Mounia Akl qui incarne la plus sauvage des deux, elle est indépendante, elle est fuyante, et lui, il est un peu plus réservé. Alors lui, c'est Hassan, qui donc est joué par Hassan Akl. Alors c'est dur de pas se mélanger dans les noms, hein, parce qu'il y a Akl et Akl. Donc Hassan, lui, il est plus réservé, il est un petit peu l'amoureux transi du duo. Et moi, j'ai bien aimé l'ambiance dans laquelle le couple évolue. Et l'atmosphère, donc ça m'a fait un petit peu penser au film de la tradition de remariage hollywoodienne, comme dans Indiscrétion de George Cukor, avec Cary Grant et Catherine Hepburn. Voilà, on retrouve un petit peu, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal d'humour aussi. Donc moi, j'ai bien aimé ce film-là. Ce film a remporté le prix du public à la Mostra de Venise en 2025, c'est pas rien. Et puis, il a été sélectionné pour représenter le Liban aux Oscars. Mais je pense pas qu'il ait obtenu l'Oscar. En tout cas, il a été sélectionné. Moi, j'ai vraiment bien, bien apprécié l'ambiance et l'atmosphère du film. Et puis, avec des acteurs vraiment que j'ai trouvé flamboyants.
Et est-ce que ça nous donne à voir aussi... le Liban et Beyrouth, ça se passe où? Plutôt à Beyrouth?
Oui, c'est en plein
Beyrouth.
En plein Beyrouth, hein. Donc il y a cette intrigue, et puis en arrière-plan, on voit toujours des bombes qui explosent par-ci, par-là. C'est présent, quoi. Ouais. Il y a aussi des extérieurs. Et puis il y a aussi une symbolique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'histoire d'amour, mais il y a aussi le thème de est-ce que dans ce monde de guerre qui est quand même assez destructeur, est-ce qu'on a envie de donner naissance à un enfant, par exemple? Donc là, il y a cette question qui se pose au sein du couple. Et puis, est-ce qu'on n'a pas aussi envie, à un moment donné, d'y échapper? Donc il y a toute une symbolique autour de l'île rêvée dans laquelle on pourrait éventuellement échapper. Donc voilà, il y a aussi des questions importantes qui sont posées, que le réalisateur avait déjà posées dans « Danser sur un volcan », en fait. C'est des questions qui les traversent constamment, en fait. Hein.
Puis la guerre est présente depuis, en effet, comme tu l'as dit, tellement longtemps,
jamais, donc...
et à la fois tellement présente. C'est-à-dire elle est à la fois inscrite dans le passé, et on le sent bien dans les films du Liban, où même quand il est fait référence aux années d'avant, ben, ça renvoie aussi aux années de guerre, au début de la guerre, et tout ça. Et elle est aussi extrêmement présente dans le présent des personnages. Mmh. Et je trouve qu'il y a très souvent comme ça un jeu de miroir temporel où les personnages ne savent des fois plus trop être entre ce conflit qui ne se termine pas, ou ces conflits
après,
qui ne se terminent
après,
pas.
Après, c'est vrai que on sent quand même leur attachement au pays, au pays, à la ville. Et qu'on sent vraiment que malgré l'ambiance qui est quand même très, très délétère, il y a un attachement quand même et un refus de partir, finalement. Même si le film se termine sur une question. Hein. Et voilà, enfin, je crois que tu l'avais vu, Martine, aussi, le film.
Oui, en fait, je pense que les nombreux flashbacks et les ellipses, enfin, cette construction comme ça du film, on ne sait plus finalement très bien dans quelle époque on est, si ce n'est se référer aux personnages qui grandissent et qui s'aiment depuis presque la naissance, on va dire. C'est une façon aussi pour lui de montrer que l'amour, ça peut être aussi une métaphore de rester dans ce pays et que les flashbacks qui sont utilisés aussi pour en raconter l'histoire, enfin les tourments, les troubles, les saccages, etc.
Et que c'est une forme de résilience, finalement.
Voilà. Oui. Et il y a une très belle musique, je ne me souviens plus de qui, mais en fait, c'est un film assez speed.
Ah oui, c'est...
Et avec des moments drôles, des moments assez drôles. Et une question ouverte à la fin, partir ou rester, etc.
Ce qui est une question qui traverse actuellement énormément la jeunesse libanaise, et qui beaucoup de jeunes ont à la fois cet attachement au pays et à la fois aussi ce besoin de partir depuis notamment l'explosion du port, depuis aussi la reprise de la guerre. Donc c'est toujours intéressant de voir comment les réalisateurs arrivent aussi à sublimer à la fois leur histoire propre, l'histoire de leur pays, leur attachement, leur amour. Et il est un peu vraiment question de tout ça dans Un monde fragile et merveilleux. C'est presque une métaphore, une périphrase qui pourrait définir le Liban. Et puis pour terminer, vous savez qu'à Cinéphile, nous essayons de vous proposer à peu près une fois par programmation un film patrimoine. Et ce mois-ci, alors c'est Chungking Express, d'un réalisateur bien connu puisqu'il s'agit de Wong Kar-wai. Alors, quelques mots sur Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, on le connaît beaucoup à travers ses films qui ont été, ses films, j'allais dire, plus récents des années 2000, qui ont été reconnus, primés, In the Mood for Love, 2046, présenté dans les plus grands festivals. Mais l'histoire de Wong Kar-wai est assez intéressante parce que c'est un gars qui est né donc en Chine continentale, à Shanghai, en 1958, et qui a ensuite émigré à Hong Kong avec sa mère, à l'âge de 5 ans, ce qui a provoqué d'ailleurs, il leur raconte des difficultés, parce que lui, il parlait mandarin, le chinois de Shanghai, alors qu'à Hong Kong, il parle le cantonais. Et du coup, il a été comme ça en décalage, et d'autant plus en décalage, que son père et je crois deux autres enfants devaient les rejoindre, et ne les ont rejoints que 10 ans plus tard, parce que la révolution culturelle a empêché que la famille se regroupe. Et c'est assez intéressant parce que Wong Kar-wai, il est toujours aussi dans quelque chose qui vient scruter le parcours, d'où l'on vient, des énigmes dans les parcours de vie. Et on va voir que c'est aussi une des thématiques de Chungking Express. Alors, il a d'abord été scénariste. Pendant presque une dizaine d'années, il a écrit énormément de scénarios. Il est crédité dans une quinzaine, lui dit qu'il en a fait au moins une trentaine. Et puis, il a décidé ensuite d'être réalisateur à partir de 1988, à l'âge de 30 ans, avec un premier film qui a été déjà noté. Alors, c'était un polar, parce qu'on était en plein dans l'époque où le cinéma hongkongais, un peu boosté par la locomotive John Woo, était dans des polars assez dynamiques. Son premier polar, ça a été As Tears Go By, puis un film que vous avez peut-être vu, qui est sorti en 1990, c'est Nos Années Sauvages. Et après, et là c'est son troisième film, celui que nous proposons, Chungking Express. Alors il faut savoir que déjà, il avait déjà tourné Nos Années Sauvages avec des acteurs et des actrices extrêmement connus et profitant aussi de leur extraordinaire rayonnement, puisque Maggie Cheung et Andy Lau dans Nos Années Sauvages, des acteurs que l'on va retrouver tout au long ensuite de la décennie et pour certains à nouveau dans des films de Wong Kar-wai. Alors, Chungking Express, c'est déjà c'est un film où les choses se mélangent. Et déjà dans le titre, il y a une sorte d'assemblage, puisque ça fait référence à, au niveau du titre, à Chungking Mansion, qui est un immeuble immense, avec plus de 4000 habitants, des centres commerciaux, dans lequel Wong Kar-wai a vécu. Donc, Chungking, pour Chungking Mansion. Et puis Midnight Express, qui est un lieu de restauration. Et en fait, c'est un mélange, et ce film est aussi un mélange, un assemblage entre deux parcours de vie, de deux flics, le matricule 223 et 663, comme il s'appelle, deux flics qui ont rompu ou qui sont en train de rompre une relation amoureuse de manière assez difficile et qui s'ouvrent ou redécouvrent ou sont re-attirés par une autre personne. Et en fait, Wong Kar-wai dit qu'il a ces deux histoires qui auraient pu être différentes, mais qu'il a fait se croiser par un cheminement assez délicat, sachant que ce film a eu un accueil vraiment excellent quand il est paru en 1994. Alors, les deux acteurs masculins, l'un Takeshi Kaneshiro et le second qu'on connaît mieux, c'est Tony Leung. Tony Leung, c'est un acteur qu'on a vu dans énormément de films de Hong Kong, Internal Affairs, par exemple, et puis qui a joué ensuite dans In the Mood for Love. Hein. Donc, c'est un des acteurs, je dirais, presque fétiche. Mais le synopsis est vraiment difficile à résumer, puisque les histoires s'entremêlent à un moment, mais se déroulent en parallèle. Par contre, déjà, Wong Kar-wai fait preuve dans ce film d'une certaine virtuosité. C'est un type qui, étonnamment, alors qu'il a été scénariste, puis scénariste reconnu pendant très longtemps, on lui a reproché, et certains de ses acteurs aussi avec qui ça a pu mal se passer, que bon, on savait jamais où est-ce qu'il en était dans son scénario, dans son film. Des fois, il tournait des scènes qu'il n'utilisait pas du tout. C'est un type qui est probablement assez difficile à suivre. Tout le travail de post-réalisation, de post-production est toujours un travail très très important chez lui. Pour 2046, par exemple, on l'attendait, il a été fini quasiment la veille de la projection à Cannes. Donc c'est vraiment un type qui a une approche du cinéma tout à fait singulière. C'est devenu maintenant un des très grands réalisateurs de Hong Kong. Et ça nous a semblé intéressant de projeter ce film, de vous proposer ce film qui va donc passer du 27 avril au 5 mai et qui clôturera donc notre programmation du mois d'avril. Parce que autant on connaît bien les films très connus, très appréciés de Wong Kar-wai, autant on connaît moins ses premiers. Et celui-ci est considéré par certains, à la fois critiques hongkongais et critiques français, comme son plus grand film, en tout cas le plus ingénieux, le plus malin, sachant que c'est à la fois une comédie et aussi une intrigue policière. Donc tout le génie de ce grand réalisateur se trouve aussi dans ce film réalisé en 1994, et nous vous invitons à aller vous régaler à le regarder. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Nous nous retrouverons dans un mois pour vous proposer la programmation des deux derniers mois, avril, mai, juin, des deux derniers mois.
La fin d'année.
La fin d'année de notre année de cinéma. D'ici là, qu'il fasse beau ou qu'il fasse froid, n'oubliez pas, allez au cinéma.
Bonsoir.